Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Le monde s'est forgé tellement de fausses idées sur le Christ qu'il est temps de rétablir la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. Le monde chrétien lui-même ne voit pas le rapport qui existe entre l'Éternel de l'Ancien Testament et le Christ du Nouveau Testament. Beaucoup supposent que l'Éternel serait le Père, ou que le Père et le Christ ne sont qu'une seule et même personne. Ceci est loin d'être le cas, comme nous allons le voir aujourd'hui, en nous basant uniquement sur les Écritures. D'autres affirment « Dieu n'est pas une personne, il est énergie », ou bien « Adam est notre Père et notre Dieu », ou encore « Dieu n'est pas un esprit, mais un homme comme Brigham Young », ou « Jésus n'est pas Dieu ». Jésus était un ange avant de venir sur la terre. Il était l'archange Michel. On dit aussi, Jésus était si parfait que ses disciples le prirent pour un dieu. Toutes ces fausses suppositions s'effondreront, bien entendu, à la lecture de la parole de Dieu. Si vous ne savez pas réellement qui est Dieu, bien que tous les chrétiens prétendent le connaître, comment pouvez-vous être certain d'adorer le vrai Dieu? Comment pourriez-vous l'adorer en esprit et en vérité? Vous savez que les faux dieux existent, mais pensez-vous que ce n'est peut-être que celui du voisin, mais surtout pas le vôtre? Avez-vous pris la peine de prouver, vraiment prouver que le Dieu à qui vous adressez vos prières est le Dieu vivant, le Dieu qui écoute les prières? L'apôtre Jean écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. » Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Nous trouvons ici deux êtres bien distincts formant la famille divine. Il y a la parole qui, beaucoup plus tard, s'est faite chair, qui est devenue le Fils, Jésus, le Messie, et il y a Dieu avec qui la parole était. Ce Dieu est le Très-Haut, c'est celui qui allait devenir le Père après avoir engendré celui qui allait devenir son Fils. Si le Fils unique a fait connaître le Père, lorsqu'il est venu sur cette terre, c'est que ce Très-Haut n'était connu que par quelques privilégiés ayant reçu le Saint-Esprit à l'époque de l'Ancien Testament. Personne n'a jamais vu celui qui porte le titre de Père, comme l'apôtre Jean le confirme dans son Évangile. Et il répète son affirmation dans sa première épître en écrivant « Personne n'a jamais vu Dieu ». Jésus lui-même déclare « Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. » Jésus affirme, « Moi et le Père, nous sommes un. » Et il ajoute, « Le Père est plus grand que moi. » Le Christ exprime l'unanimité d'action et de conseil qui existe entre son Père et lui. Il montre qu'une hiérarchie existe dans les cieux. Jésus est tellement proche de son Père qu'une unité parfaite existe entre eux deux et il souhaite la même unité pour tous ceux qui se disent ses disciples. C'est pourquoi il déclara, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Cette union totale, parfaite, lui permet de déclarer, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » N'oublions pas qu'il dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Jésus est donc venu révéler le Père. Révéler, c'est faire connaître ce qui est inconnu et secret. Jésus a révélé le Père à ses disciples, et il le révèle à tous ceux qui veulent obéir à Dieu. Si personne n'a jamais vu Dieu, le Très-Haut, celui qui est devenu le Père de Jésus-Christ il y a près de 2000 ans, qui donc était celui qui a parlé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève? qui s'est présenté à Abraham parmi les chênes de Mamré, qui a parlé face à face avec Moïse et qui a donné les 10 commandements au peuple d'Israël du haut du mont Sinaï. Vous êtes-vous posé la question? Comprenez qu'il y eut une époque au cours de laquelle celui qui devint Jésus n'était pas le Fils de Dieu, tout comme au cours de cette même époque, le Très-Haut ne portait pas encore le titre de Père. Cette époque est donc celle qui précéda la conception du Fils dans le sein de Marie. Si personne n'a vu le Père, et ceci est indiscutable, puisque révélé dans la parole inspirée de Dieu, l'Éternel qui a été vu par diverses personnes à l'époque de l'Ancien Testament ne peut pas être le Père. C'est aussi logique et aussi simple que cela. Lorsqu'il annonça à Marie la naissance d'un fils, l'ange Gabriel lui dit « Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » L'ange Gabriel révèle ici le nom du Père. Il nous apprend que cet enfant sera appelé Fils de Dieu, un titre qui ne lui avait pas encore été donné auparavant. Le nom de celui qui allait devenir le Père fut révélé à Abraham. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » C'est ce Dieu Très-Haut qui est devenu le Père de Jésus-Christ. C'est lui que le Christ priait. C'est à lui qu'il nous demande d'adresser nos prières, car il est le Père de tous ceux qu'il a engendrés par son Saint-Esprit. L'apôtre Jean a écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Jésus-Christ était là au commencement. Il était membre de la famille divine. Il se trouvait avec Dieu et il était lui-même un Dieu. Ceci est confirmé par l'ange qui apparut à Joseph. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Nulle part dans la Bible, le second membre de la famille divine n'est présenté comme étant un fils avant sa conception dans le sein de Marie. Emmanuel, ceci signifie « Dieu avec nous ». Ces mots prouvent la divinité du Christ, mais une divinité dont il s'est complètement dépouillé, comme Paul le confirme. Si vous souhaitez recevoir notre étude gratuite qui traite de ce sujet, il vous suffit de la demander. La divinité du Christ est encore révélée par l'apôtre Paul qui écrit « Car auquel des anges a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » et encore « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Il est certain que ces paroles n'ont pas été dites à un ange mais à Jésus-Christ. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Quand cette déclaration fut-elle faite? Lors de la résurrection du Christ. Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Si son trône est éternel, c'est qu'il n'a pas eu de commencement. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Pourquoi est-il oint au-dessus de ses égaux? Parce que le Christ est le premier à avoir été ressuscité parmi de nombreux frères. Voilà pourquoi Paul écrit qu'il est le premier-né entre plusieurs frères. L'huile de joie ou d'allégresse est celle que l'on répandait sur la tête de celui que l'on voulait honorer dans certaines circonstances. Dans le premier chapitre de la Genèse, le mot « Dieu » est traduit de l'hébreu « Elohim », qui a un sens de pluralité comme « groupe »,« église », famille. Le mot « Elohim » est utilisé jusqu'au 3e verset du 2e chapitre, après quoi il y a changement. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. « Éternel Dieu » est traduit de « Yahvé, Elohim ». il s'agit du second personnage de la famille divine. Voyons comment l'Éternel se fit connaître à Moïse. Lorsque celui-ci lui demanda quel était son nom, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. L'Éternel, Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Comparons le récit de l'Ancien Testament avec celui du Nouveau Testament. L'Ancien Testament relate qui était l'Éternel pour son peuple, tant à l'époque de l'Exode que plus tard. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Moïse déclare, « Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu, il est le rocher et ses œuvres sont parfaites. » À son tour, le roi David écrit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. » Maintenant, comparons ce que nous venons de lire avec ce que Paul écrit. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. » Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Aucun doute ne peut subsister. L'Éternel de l'Ancien Testament qui était dans la nuée et qui était leur rocher est celui qui allait devenir Jésus de Nazareth, le Christ. Cela vous semble-t-il impensable? Cependant, c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Le mot « éternel » est la traduction donnée par Louis II, auteur de la version française la plus courante de la Bible. Le tétragramme YHWH est traduit par Yahvé, par le chamoine Crampon, d'autres traduisent par Jéhovah, et pour la Bible anglaise King James, c'est The Lord, autrement dit le Seigneur. L'apôtre Paul, lui, confirme qu'il s'agit bien du Christ. En l'an 31 de notre ère, le jour de la Pentecôte qui est la fête des semaines ou des prémices. Après que le Saint-Esprit fut descendu sur les 120 personnes assemblées dans la chambre haute, Pierre se présenta avec les 11 devant la foule et déclara « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Le prophète Joël a écrit, « Après cela, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Il ne fait aucun doute que pour Pierre et pour les 11 apôtres, ainsi que pour le prophète Joël, l'Éternel de l'Ancien Testament est bien le Seigneur du Nouveau Testament. C'est le Christ, le Messie, celui qui devait être appelé Jésus. Je poursuivrai ce sujet la semaine prochaine.